voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
L'Afrique, forfait pour la course au vaccin anti-Covid, se montre très active sur le terrain des traitements. Pour l'instant, elle tente de s'imposer en proposant des remèdes, mais aucun n'est homologué par l'OMS. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Mais avant d'ouvrir justement les débats, notre invité, Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et il s'agit de Serge Kamdem-Kwam. Serge Kamdem-Kwam, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio.
Instructeur d'arbitre, administrateur de la FECAFOOT, c'est la Fédération Camerounaise de Football, et consultant sportif. Merci d'être en direct avec nous de Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun, où s'affrontent en ce moment même Maliens et Guinéens pour la première demi-finale du CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football. Pour l'instant, 0-0 et les deux équipes sont aux prolongations, M. Kwam.
Bon, disons que le match Mali-Guinée, qui est un match très savoureux pour ceux qui aiment la jeunesse, se joue plutôt du côté de Douala au stade de Jacoma, dont les deux demi-finales sont délocalisées dans deux villes, pour les deux sites.
Donc, pour l'instant, c'est la deuxième Cameroun-Maroc qui se joue à 19h.
Maroc qui se jouera à Limbé. 20h.
Merci.
19h, heure temps universel, voilà.
Merci.
Donc moi, quand j'ai quitté le petit écran tout à l'heure, les deux équipes étaient à égalité au niveau du stade de Jacoma, qui est un joyau que vous connaissez tous actuellement sur le plan purement infrastructurel. Donc les deux équipes étaient à égalité de partout et on espère bien.
D'accord. Nous allons davantage parler d'avenir ouvert le 16 janvier. Nous en sommes donc à la phase demi-finale, je le disais. Comment appréciez-vous le niveau technique de la compétition à ce stade?
Mais disons déjà que pour ceux qui avaient pensé le CHAN sur le président Issa Hayatou à l'époque à la CAF, c'était pour valoriser les talents locaux. Et on montre bien à travers cela sur le plan technique, l'Afrique essaie de montrer que ces championnats sont valorisés avec un niveau de compétition bien relevé et surtout quand on a des terrains comme ceux que j'ai décrit tout à l'heure qui sont vraiment à la hauteur des attentes. Donc jusqu'ici, au niveau de la compétitivité, on voit bien des joueurs qui sont actifs, il y en a qui ont eu beaucoup de peine à rentrer dans les jeux. On a eu des joueurs qui sont partis de la diaspora pour revenir retrouver les clubs locaux pour figurer sur les listes de leur sélection. Et ça, ça fait qu'il y a un niveau un peu relevé de la compétition.
Dans le CHAN est de plus en plus attrayant, même pour les joueurs qui évoluent hors de leur pays.
Naturellement. Donc, je pense qu'il faut penser une ouverture du CHAN parce qu'aujourd'hui, il est bloqué sur les joueurs qui évoluent totalement au tiroir. On peut penser à des joueurs qui évoluent, pourquoi pas, sur tout le continent africain, qui soit sélectionnable pour l'équipe. Donc, comme vous avez dit vous-même, le CHAN est aujourd'hui, d'abord, il est le premier événement de 2021 post-Covid sur le plan footballistique et il est avec ce que le Cameroun est en train de faire, en train de tenir la promesse des fleurs.
Quels sont les outsiders qui vous ont surpris par leur performance?
Quand vous voulez analyser de façon réelle, vous regardez au stade de demi-finale une équipe comme la Guinée. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Le Cameroun, par exemple, c'est sa première fois arrivé à ce stade de la compétition. Par contre, quand vous avez le Maroc qui est tenant du titre, vous avez le Mali qui est une sélection qui, sur le plan de la formation, fait beaucoup de bonnes choses. Donc, vous comprenez que nous avons le Cameroun aujourd'hui et la Guinée qui sont des arrivistes à ce niveau de la compétition, qui peuvent à tout moment créer la bonne surprise et on espère qu'à partir des résultats des demi-finales, on aura une autre notation pour le CHAN habituel.
Ça, c'était pour les équipes, mais maintenant, au niveau des footballeurs eux-mêmes, est-ce qu'il y a quelques grands noms qui ont déjà été révélés, des grands footballeurs de demain?
Bon, grands noms, ce serait très tôt de le dire, parce que quand vous regardez bien, les équipes ont eu la peine à vraiment commencer à marquer des buts. Une équipe comme le Maroc, par exemple, qui fait attendu, son avant-centre s'habille.
Le Maroc qui est champion en titre?
Champion en titre, il y a eu beaucoup de peine a vraiment déroulé. Il a fallu un déclic devant une équipe un peu banalisée, mais un peu abasourdie, pour que le Maroc puisse revenir au sport et après, sur un élan de fierté, retrouver, redorer son blason. Mais là-dessus, de façon globale, les joueurs qui font sensation sont plus pour des défenseurs. Regardez une équipe comme celle du Cameroun avec son joueur Banga, qui est pour moi une révélation locale parce que personne ne l'attendait à ce stade, mais il est assis à la deux buts. C'est lui d'ailleurs qui a marqué les seuls buts qui jusqu'ici. Les deux premiers buts qui ont donné la bonne voie au Cameroun pour que la voie des quarts de finale soit assurée. Donc quand vous avez des joueurs comme les Zoa qui sont inexistants parce que peut-être malades, vous avez les Djeng qui sont revenus mais qui n'arrivent pas à scorer, vous posez bien des questions. Maintenant, quand vous allez prendre les autres sélections, on a un problème d'équipe. La Aide Congo, par exemple, quand vous la voyez sortir de la compétition, vous posez la question, mais est-ce que c'est une sélection ou simplement une équipe? Parce que quand on a une sélection de joueurs, on fait une équipe pour que le jeu soit cohérent.
Serge Kouam, il faut noter qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous. Alors, les supporters sont au rendez-vous, les commentateurs sont unanimes là-dessus, malgré le double défi sécuritaire et sanitaire. Diriez-vous que les autorités camerounaises sont peut-être en passe de réussir le pari d'organiser une compétition sans faux pas majeur?
Jusqu'ici, il n'y a pas deux semaines parfaites, c'est vrai, mais jusqu'ici, le Cameroun donne le meilleur de lui pour que la compétition soit à la hauteur des attentes. Vous avez évoqué vous-même les bruits, parce que malgré le fait qu'on parle de Lindé, qui est une ville sous couvre-feu et tout ça, les Camerounais sont sortis
avec la crise anglophone.
Et vous comprenez bien. Voilà, je suis en plein vacarme, non loin du stade, et le public davantage se mobilise pour s'y rendre. Donc vous comprenez que...
Il y a une véritable adhésion populaire. Et maintenant, pour terminer votre affiche de la finale de dimanche prochain.
Disons que tout dépendra des surprises qui vont se dessiner aujourd'hui. Si vous voyez une équipe guinéenne en finale, elle ne vous surprendra pas. C'est vrai que le Mali n'est pas un enfant de cœur non plus. Mais le Maroc-Cameroun, le Maroc va favori, mais le soir, le cœur pour nous bat pour le Cameroun. On espère bien que le Cameroun fera sensation et pourquoi pas qu'on aura une finale. Je souhaite bien Cameroun-Guinée qui sera à la finale du Chan.
Dans toutes les quatre équipes demi-finalistes ont leur chance de figurer à la finale qui se joue donc dimanche prochain. Merci à vous, Serge Kamdem Kouam.
Merci ma grande, c'est moi qui vous remercie. Encore, je vous dis, je reste là, on aura le temps d'en parler quand il faudra.
Merci. Instructeur d'arbitre, administrateur de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football et consultant sportif en ligne de l'IMBE au Cameroun.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Ce soir, dans votre émission, nous parlons de l'Afrique qui est très dynamique dans le domaine des propositions des remèdes pour lutter contre le Covid-19. Et nous allons en parler ce soir avec trois invités. Moïse Soumb, secrétaire général de Atrapacam. C'est l'association des tradis praticiens et promoteurs de la clinique des plantes. Il est en ligne de Yaoundé au Cameroun. Monsieur Soumb, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bienvenue à vous, professeur Falaï Traoré. Vous êtes là, vous êtes à Conakry, en Guinée.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, directeur national de la pharmacie et du médicament. Et enfin, docteur Valentin Agon, directeur général d'API Bénin et API Pharma. Vous êtes en ligne, monsieur Agon?
Oui, madame, je suis en ligne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs, pour cette édition de Grand Rendez-vous. Alors, je voudrais vous demander, comment appréciez-vous cette présence, et ça, je m'adresse d'abord au professeur Falaï Traoré, comment appréciez-vous, disais-je, cette présence ou disons plutôt ce dynamisme de l'Afrique dans le débat sur les traitements anti-Covid? Ce qu'on n'a pas constaté, par exemple, pour le vaccin, où l'Afrique était quasi absente.
Mais écoutez, je pense que certains pays africains se sont manifestés dès le début de cette pandémie en faisant des propositions sur des phytomédicaments. Et le cas particulier de la Guinée, nous avons fait des essais cliniques sur deux médicaments, le quinquina et un autre médicament qui s'appelle l'ACAR, qui est une association de deux plantes. Et ce sont l'Alcoria cordifolia et le Gurea minor. Et ces essais cliniques ont été pilotés par l'Institut qui s'occupe des plantes médicinales ici, de la production des phytomédicaments. Cet institut se situe donc dans la banlieue proche de Conakry et il est dirigé par un professeur de pharmacognosie de l'Université guinéenne. Et ces effets ont été en fait concluants parce que les résultats que nous avons pu entendre de ces chercheurs, il n'y avait pas de différence significative en faisant la comparaison entre ces deux plantes, le quinquina et l'association donc de ces plantes-là, versus l'hydroxychloroquine qui a été largement utilisée, j'imagine, dans tous les pays africains comme traitement standard.
Et qui continue d'être utilisé.
Et qui continue d'être utilisé, d'ailleurs, mais malgré toutes les polémiques.
Justement, malgré toutes les polémiques, vous l'avez dit, professeur Traoré, quel est le sort qui a finalement été réservé à ces deux médicaments? Où est-ce que vous en êtes?
Mais comme c'était des essais cliniques, disons que l'Institut est en train de continuer à faire ces essais cliniques. Ils n'ont pas encore terminé tout à fait les essais. Et la décision a été prise par le conseil scientifique de leur laisser le temps de continuer à faire les essais. Et le traitement qui a été adopté de façon générale, c'est l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Donc pour le moment, ces essais sont en cours et nous n'utilisons pas ces médicaments, en tout cas, dans le cadre de la thérapeutique. Voilà, pour l'instant. Maintenant, l'avenir nous dira si ces produits-là pourront être utilisés dans le cadre du traitement de la COVID-19.
Merci.
C'est des essais sur un nombre limité de patients.
Docteur Valentin Agon, le produit que vous proposez, la vipirine, a eu un destin similaire dans un autre pays ouest africain, le Burkina, mais où en est justement ces essais, où en sont ces essais qui avaient été initiés par le Burkina sur votre produit? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Merci beaucoup, madame. Je suis très heureux de pouvoir vous dire beaucoup plus que ce que vous aviez entendu. En fait, Apivirine, c'est notre produit depuis 21 ans. Nous avions proposé ce produit issu de la plante Discostachys glomerata depuis les années 2000 contre le VIH, parce qu'on avait étudié son effet sur le VIH. On avait fait des études à l'Institut de virologie de Strasbourg sous la direction du professeur Aubertin. Alors donc, on avait utilisé pendant 20 ans ce produit sur le sida. Et dès que la pandémie de coronavirus a commencé, nous avions proposé cela. Et heureusement, le gouvernement burkinabé s'était saisi de Apivirine. Alors donc, le ministère de la Recherche de Burkina Faso a commandité une recherche sur Apivirine, connaissant déjà dans le passé ce produit, parce que nous avions travaillé avec le professeur Sangaré dans les années 2001-2002 au Burkina Faso. Et donc, les études précliniques ont été faites par l'Institut de recherche en sciences de la santé sous la direction du docteur Ouédraogo Sylvain. Et l'investigateur principal de cette recherche, c'est le professeur Martial Ouédraogo. Et donc, on avait soumis un protocole d'essai clinique qui a été validé. On a reçu l'avis favorable du comité d'éthique et les essais ont commencé. Donc, les essais ont évolué. On était en phase 2. On a eu au total 45 patients, tous positifs au COVID-19, et des cas simples. Et puisque les parents de ceux-là voyaient les résultats, ils ont demandé à ce que eux-mêmes, des parents malades, ont commencé aussi à vouloir prendre le produit. Ils ont été introduits aussi.
Oui.
Et voici les résultats.
Oui, pouvez-vous répondre plus rapidement, s'il vous plaît? Faites une synthèse de votre réponse. Alors, où en sont justement les essais maintenant? Il semble qu'il y a
Les essais sont finis.
Oui.
Les essais sont finis et nous avons les résultats à vous présenter ici maintenant.
Mais il y a eu une levée de bouclier au niveau de l'ordre des médecins burkinabés contre ces essais.
Les essais étaient finis, le compte rendu a été fait au gouvernement. Maintenant, l'ordre des médecins au Burkina Faso avait demandé à ce que, où est-ce que les essais étaient. Dans un essai, dans un pays, on n'implique pas forcément l'ordre des médecins. C'est les chercheurs qui ont travaillé à l'université et les gens ont voulu mettre leur nez dedans, les gens ont voulu perturber ce qu'on faisait. Nous, on n'a pas répondu à tout cet appâge. Ils ont écrit, ils ont fait des choses. Ils ont même jugé que l'essai n'était pas
bien mené. Légal. Et l'auteur des essais, il y a une plainte contre l'auteur des essais.
Aucun procureur n'a reçu une plainte, n'a réagi, rien du tout. Il y a des effets d'annonce, il y a des écrits partout.
Mais la réalité est que l'essai a été très bien fait.
Merci.
On a les résultats. Le gouvernement burkinabé a reçu les essais, les résultats des essais, tant au plan innocuité qu'au plan efficacité.
Merci.
Donc, ben, le comité d'éthique du ministère de la Santé et de la Recherche avait bien validé l'essai. On a l'avis favorable. Et donc, tous ces résultats seront publiés et dans quelques jours.
Merci beaucoup. Vous êtes donc manifestement, docteur Valentin Agon, convaincu par l'efficacité de votre produit. Monsieur Moussom, vous êtes là ? Allô ?
Madame, je vous écoute.
Oui, comment appréciez-vous cette présence des acteurs africains sur le terrain du traitement contre la Covid ? Est-ce que vous avez l'impression au niveau de votre association des tradis praticiens qu'il y a une écoute ? Est-ce que vous bénéficiez de l'écoute des autorités sanitaires du Cameroun ?
Oui, nous bénéficions de l'écoute des autorités sanitaires du Cameroun. Malheureusement, vous savez que la médecine africaine et la médecine moderne ne font pas bon ménage. Nous sommes au 21e siècle et d'aucuns croient que la santé se trouve au niveau de la médecine conventionnelle. C'est là où nous sommes bloqués.
Mais si on se parlait justement, au lieu d'être plus général, mais je souhaite qu'on se concentre sur la Covid. On a vu par exemple qu'au niveau du Cameroun, l'archevêque de Douala, Samuel Kleda, a proposé deux médicaments pour traiter le Covid-19. Le ministère de la Santé publique s'est approché au début de cette proposition de Samuel Kleda. Est-ce que c'est aller plus loin que cela ? Où en est justement, où en sont les relations entre les autorités sanitaires camerounaises, le ministère par exemple, et l'équipe de Samuel Kleda ?
Ça a été autorisé, puisque ce produit est en vente. Ça a été autorisé.
Mais pas dans les hôpitaux publics, se plaignait l'équipe de l'archevêque.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je disais tantôt que la médecine moderne et la médecine africaine ne font pas bon ménage.
Donc vous pensez que vos découvertes, vos propositions, quand vous avez des médicaments à proposer, on ne prend pas ces propositions au sérieux ?
C'est vrai.
Et pour ce qui est de la COVID-19, il y a d'autres propositions de médicaments qui ont été faites en dehors de celui de Samuel Kleda. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Est-ce que ces pistes sont solides et crédibles ?
Oui, au niveau de notre association, nous avons eu des patients qui présentaient des symptômes similaires aux symptômes du coronavirus que nous avons guéri en moins d'une semaine.
Mais n'empêche que les taux grimpent avec toujours plusieurs. Au Cameroun, Monsieur Soum.
Oui, mais pas trop. Pas trop.
Très bien, on va marquer une pause, messieurs. On va se retrouver dans un instant pour continuer notre débat sur les traitements ou les remèdes anti-Covid proposés par chercheurs et autres thérapeutes africains.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle attitude faut-il adopter face aux différents remèdes africains pour traiter le coronavirus ? C'est le thème de notre grand rendez-vous ce soir avec Moïse Soumb, secrétaire général de l'Association des tradis praticiens au Cameroun à Yaoundé, Dr Valentin Agon, directeur général d'API Bénin et API Pharma, et de professeur Falaï Traoré, directeur national de la pharmacie et du médicament à Conakry en Guinée. Nous allons à présent vous écouter à nouveau, professeur Traoré. Alors, vous avez entendu Monsieur Moïse Soumb se plaindre de ce que les autorités ne font pas très souvent confiance aux produits proposés par la médecine traditionnelle. Comment expliquez-vous cette extrême prudence, professeur Traoré ?
Je pense que peut-être cela doit être particulier au Cameroun, si j'ai bien entendu le nom du pays de celui qui est intervenu. En Guinée, les autorités font confiance à la médecine traditionnelle. Lorsqu'il y a eu la COVID-19, et la première personne d'ailleurs qui a encouragé les recherches sur les plantes médicinales du pays était le chef de l'État lui-même, qui a demandé aux chercheurs qui travaillaient dans ce domaine de s'activer pour pouvoir trouver un remède contre cette COVID, ne serait-ce que dans le cadre d'un traitement symptomatique. Donc, j'ai oublié de rappeler tout à l'heure que le médicament, les deux produits qui ont été, qui ont fait l'objet d'un protocole d'essai clinique, ce sont des essais cliniques, des protocoles qui ont été soumis au comité d'éthique et les essais, certes, n'ont pas encore atteint la fin de l'étude, mais ce qui est sûr et certain, le mot d'ordre a été lancé à tous les chercheurs pour que tout le monde puisse s'activer, surtout ceux qui travaillent dans le domaine des plantes médicinales, pour trouver des remèdes. Et comme la Guinée est un pays qui regorge d'une flore assez intéressante, nous avons par exemple le quinquina qui pousse vers le sud de la Guinée depuis fort longtemps. Donc, les personnes ont été déplacées pour aller faire des récoltes de quinquina afin qu'on puisse utiliser le quinquina sous forme de thé pour soulager les patients qui en souffraient. Il y a eu d'autres chercheurs qui ont aussi travaillé sur d'autres plantes, comme les essences d'eucalyptus, qui ont été utilisées également pour soulager les patients qui souffraient de problèmes respiratoires, en inhalation. Mais moi, je pense que dans le cas particulier de la Guinée, les autorités ont toujours encouragé les chercheurs à travailler sur les plantes médicinales.
Merci.
Parce que c'est vrai qu'il manque des laboratoires de recherche qui puissent aller jusqu'à l'isolement des principes actifs au niveau des drogues. Et ça, c'est la partie qui est la plus difficile à réaliser. Qui est la plus difficile, mais l'effort est fait sur le plan ethnopharmacologie, c'est-à-dire les chercheurs vont souvent vers les tradis praticiens pour essayer de répertorier tous les remèdes qui existent et pour quelles maladies ces remèdes sont utilisés par des tradis praticiens. Et ce sont des sujets souvent qui viennent au niveau des départements de biologie et de la faculté de pharmacie pour donner aux étudiants afin qu'ils puissent vraiment faire des travaux de recherche dessus. Et nous avons vraiment une bibliothèque assez riche sur ces genres de travaux. Et je pense que lorsque nous aurons des laboratoires assez développés, ce sont vraiment des thèmes.
Et qu'est-ce qui vous empêche justement d'avoir ces laboratoires? On sait qu'il y a quand même dans chaque pays, comme la Guinée, on a souvent eu le professeur Zerbo de l'OMS. Quel est le regard que l'OMS porte sur ce travail? Et, est-ce que vous avez sollicité des grands groupes pharmaceutiques ou peut-être l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer justement cet aspect qui manque pour faire aboutir le travail de ces tradis praticiens?
Les grands groupes pharmaceutiques, oui, l'OMS est toujours là pour appuyer la Guinée dans ce domaine-là. Alors, ce qui manque, c'est l'appui des grands groupes pharmaceutiques, par exemple. Nous n'avons pas, les grands groupes pharmaceutiques préfèrent importer, commercialiser leurs produits via l'importation des produits que de s'installer en construisant des unités de fabrication, parce que c'est à travers les unités de fabrication que les grands groupes pharmaceutiques peuvent appuyer, par exemple, l'université en leur donnant du matériel, ne serait-ce que du matériel de récupération, pour permettre aux laboratoires des universités de faire des travaux de recherche intéressants. Merci. Mais si ces labos ne sont pas implantés dans le pays, c'est difficile.
Merci beaucoup, professeur Traoré. Alors, docteur Agon, quelle est l'expérience de votre médicament Avipyrine avec le Bénin? Est-ce que vous avez bénéficié du soutien des autorités béninoises? On vient d'entendre le professeur Traoré dire qu'en Guinée, il y a un soutien fort des autorités aux tradis praticiens.
D'abord, moi j'avais étudié à l'université Joseph Kizevo au Burkina Faso avant d'aller faire ma thèse au Canada. Donc, c'est pourquoi dès le début de la crise et quand on a eu les premiers cas au Burkina Faso, je m'étais approché de Burkinabé et j'ai eu l'accord du gouvernement burkinabé qui a commandité l'essai sur la pubirine, qui a financé les études sur la pubirine et qui a réalisé cette étude par un institut public. Et l'Institut de recherche ancienne de santé.
Je parlais davantage de l'attitude de votre pays d'origine, le Bénin. Est-ce que vous sentez ce soutien sur des pistes africaines sur votre produit?
Voilà. D'abord, le Bénin a attendu les résultats de là-bas. Et maintenant, nous sommes en train de rendre les résultats au président de la République, au ministre de la Recherche, qui était toujours en collaboration avec nous pendant tout le temps. Et je voudrais vous dire d'abord que cette étude de commandité financée, réalisée par le gouvernement burkinabé, et s'il y a des réactions que vous avez lues à travers le net, c'est parce qu'il y a des gens qui voulaient savoir plus. Mais ce que nous demandons est que quand on veut critiquer une étude, on reprend l'étude dans les mêmes conditions pour voir si les études sont réelles ou non. Et donc, après ça, nous avons...
Si toutes les étapes ont été respectées.
Tout est respecté. Et nous avons maintenant signé un accord avec trois universités en Amérique par le groupe APICRES et qui reprend et qui continue les études en phase 3. Et nous avons eu aussi la correspondance avec le ministère de la Santé du Canada et qui, on est en train de faire le dossier pour avoir l'AMM, l'autorisation pour faire encore les essais à Montréal, au Canada.
Donc, mais pourquoi tout cela ne suscite pas un intérêt particulier des grands groupes, comme le disait le professeur Traoré tout à l'heure? Et je voudrais revenir à l'attitude de l'OMS qu'on critique souvent. On l'accuse à tort ou à raison d'être un peu condescendante, parce que malgré les avancées dont vient de parler le professeur Traoré concernant les essais cliniques en Guinée, malgré ce que vous-même vous venez d'affirmer, l'OMS continue de dire qu'il n'y a aucun traitement à ce stade contre le Covid-19. Comment expliquez-vous cette attitude?
Je pense que l'OMS va changer d'attitude quand le gouvernement burkinabé, dans les jours à venir, va transmettre les résultats à l'OMS. Parce que quand l'OMS n'a pas encore reçu concrètement les résultats avec le respect de toutes les étapes, l'OMS peut continuer à douter, mais maintenant, nous avons des résultats et les Américains se sont engagés pour que sur le sol américain, même apivirine sera produit à New York, selon le protocole que nous venons de signer.
Donc vous avez bon espoir que finalement, la communauté scientifique internationale et l'OMS vont peut-être changer d'attitude. Pose la question parce que j'évoquais l'incident avec le Burkina, avec l'ordre des médecins, alors que le président de l'ordre est passé aujourd'hui ministre de la Santé.
Oui.
Donc vous gardez...
Le président de l'ordre qui avait écrit est maintenant ministre de la Santé, et sur sa table se trouve le dossier de Apivirine. Eh bien, bon, je pense que ce monsieur le ministre de la Santé, qui était président de l'ordre et qui est maintenant ministre, et qui est entré dans le gouvernement, qui a financé, qui a réalisé et qui a commandité les faits, il doit relire maintenant.
Ça sera obligé d'endosser.
Il était en position de critique et c'est normal. Maintenant, il a les choses en main et la réalité est là. Il peut même ordonner une contre-étude pour voir la réalité de ce que nous disons.
Merci.
Mais ce qui est grave est que nous sommes dans une situation de pandémie et nous devons réagir efficacement. Mais je pense que nous sommes en train de nous distraire au lieu d'aller à la réalité. Nous laissons mourir nos frères et sœurs. Et c'est pourquoi moi, je salue le travail du professeur Martial Ouedraogo, qui a eu l'audace de réaliser l'essai et qui est allé même, qui est rentré même dans la phase 3 pour voir sur les cas les plus compliqués, des cas d'embolie, des cas des cas les plus compliqués, des personnes âgées de 80 voire 90 ans ont été traitées efficacement sous apivirine. Donc nous devons réagir efficacement parce que la science nous appartient aussi.
Merci beaucoup. L'instant, nous avons perdu Moïse Soumb, secrétaire général de l'Association des traduits praticiens du Cameroun. On me fait signe qu'il est de retour. Monsieur Soumb, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, madame.
Voilà, je voulais vous demander peut-être avant que vous ne réagissiez sur l'attitude de l'Organisation mondiale de la santé qui continue de rappeler qu'il n'y a aucun traitement contre le coronavirus. Je voudrais que vous réagissiez à ces reproches qu'on a souvent fait aux traduits praticiens. Certains affirment que le problème avec vos médicaments, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de clarté au niveau des dosages. Il y a une faible connaissance des effets secondaires.
Oui, vous savez, le dosage importe peu dans la médecine des plantes. Parce que nos aïeux ne savaient ni lire ni écrire. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était que le dosage.
Mais l'époque a changé, monsieur Soum.
C'est vrai, mais les plantes n'ont pas changé. C'est les mêmes plantes.
D'accord. Et maintenant, sur l'OMS, on a parlé de avipirine au Bénin. Il y a deux médicaments qui sont proposés en Guinée, et il y a aussi ces deux autres médicaments qui ont été autorisés par les autorités congolaises en RDC. Mais jusque-là, l'OMS se montre prudente. Vous pensez que l'OMS est trop prudente face à ces médicaments proposés contre le COVID-19 ou c'est peut-être un manque d'information qui pousse l'Organisation mondiale de la santé à se montrer très réservée?
C'est un manque de communication et de confiance, parce qu'aucune maladie n'est incurable.
D'accord. Et comment est-ce qu'il faut surmonter ce problème de communication aujourd'hui? Comment peut-on faire pour que les pistes africaines, les traitements africains puissent avoir une écoute plus importante, peut-être, ou plus sérieuse de l'OMS?
Il faut savoir que les produits pharmaceutiques tirent leur essence des plantes. Donc c'est cette même plante que la médecine naturelle utilise. C'est juste ce qu'il faut comprendre. C'est pas difficile.
D'accord. Merci, Monsieur Soum. Professeur Falaï Traoré, sur quoi faut-il travailler aujourd'hui pour convaincre les autres? Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit, de ce que les remèdes efficaces ou non pour l'instant, en tout cas que les pistes africaines méritent plus d'attention et peut-être qu'on fasse de sérieux essais sur ces médicaments contre la COVID-19, mais pas seulement.
Je vais vous dire que ce qui manque aux pays africains, ça c'est mon point de vue personnel, c'est l'appui que l'on peut apporter à ces chercheurs qui travaillent dans le domaine des plantes médicinales pour homologuer leur production. Parce que lorsque vous avez, par exemple, comme l'ont dit mes collègues qui sont en ligne, celui du Burkina ou le tradipraticien qui est du Cameroun, lorsque vous avez cette richesse de l'Afrique en plantes médicinales, ce qu'il faut, c'est de faire en sorte que les conditions soient créées pour ces chercheurs pour que les produits issus de la recherche soient expérimentés, qu'il y ait une contre-étude dans les pays beaucoup plus développés avec du matériel dont
les résultats... Mais est-ce que ces pays beaucoup plus développés sont enclins à faire cette étude, ces essais dont vous parlez? On a l'impression que d'office, il y a un rejet, il y a un préjugé défavorable à l'égard de ces produits africains.
Mais ils ont ceux qui ont un préjugé, ils ont tort, parce qu'ils auraient dû, au lieu de dire par exemple que telle plante n'est pas efficace contre telle pathologie, ce qui serait bien, c'est de considérer que les inventeurs n'ont pas suffisamment de moyens pour aller loin dans les investigations, et donc les appuyer pour que on puisse trouver le résultat, pour qu'on puisse dire si les résultats sont concluants ou ne sont pas concluants. Et comme cela, c'est toute l'humanité qui en profite. Donc moi, je pense que il faut surtout apporter de l'appui à ces chercheurs dans le domaine des plantes médicinales pour leur permettre d'aller plus loin dans les recherches sur les substances actives des plantes médicinales. Et comme cela, c'est tout le monde qui peut en profiter. Mais le rejet n'a aucun sens. Parce que de toutes les façons, ces chercheurs, depuis l'Antiquité, les plantes médicinales ont été utilisées dans les pays africains.
Merci.
Et les Africains y croient. On y croit, on sait que certaines
beaucoup
plantes
guérissent les pathologies. Beaucoup d'Africains se soignent traditionnelle avec les médicaments traditionnels. Merci beaucoup, professeur Traoré. On marque une dernière pause et on se retrouve pour clore ce débat.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Faut-il faire confiance aux traitements proposés par des chercheurs et thérapeutes africains pour soigner le COVID-19? C'est le thème de notre débat de ce soir avec le professeur Falaï Traoré, directeur national de la pharmacie et du médicament à Conakry en Guinée, Moïse Soumb, secrétaire général de l'association des tradipraticiens au Cameroun, et docteur Valentin Agon, directeur général d'API Bénin et d'API Pharma. Docteur Agon, alors, le professeur Traoré parlait tout à l'heure de la nécessité de soutenir ces propositions faites par des chercheurs africains. Mais qui doit apporter justement cet appui déterminant qui fait défaut?
Mais ce sont nos politiques, nos gouvernants, parce que si nous faisons les mêmes PhD, les mêmes doctorats que les autres en Occident, et leurs recherches sont saluées par leur pays, nos gouvernants doivent saluer ce que nous faisons en tant que citoyens africains. Et c'est pourquoi moi je salue les autorités burkinabées et les autorités guinéennes, le président guinéen qui a autorisé même mon conseil sur les plantes. Voilà, donc,
il y a aussi le président congolais Tshisekedi qui a autorisé l'utilisation de deux médicaments. On se souvient aussi de l'implication personnelle de Andre Rajoel à Madagascar pour Covid Organics.
Oui.
Mais cela n'a pas changé grande chose. Ça n'a pas changé l'ordre.
Voilà, ça va changer parce que au plan scientifique, il faut toujours commencer et personne ne nous donnera de la place dans la science. C'est à nous de nous inviter par notre qualité, notre compétence dans la compétition scientifique pour prendre notre place, la place de l'Afrique. L'Afrique a une place dans la science et nous sommes aussi autant.
Mais pour que le message passe, il faut d'abord vaincre ces préjugés défavorables, je le disais, et c'est le nœud du problème aujourd'hui. Comment les vaincre justement? Quand on voit même les chefs d'État qui s'investissent, j'ai cité l'exemple du président congolais et de son homologue malgache, qui ils se sont impliqués, mais il reste que la position de l'OMS est restée constante.
Ça va changer, madame, parce que il faut répéter les choses, il faut s'inviter et il faut s'imposer. Personne ne nous aidera. À nous-mêmes de nous imposer, de nous inviter sur la place publique de la science, et de montrer, de démontrer par les preuves, parce que en science, c'est les preuves, ce sont les preuves qui parlent. Et puisque au Burkina, maintenant, nous avons les preuves en main, et nous pouvons permettre à tout État africain de reprendre notre étude, nous allons fournir les produits, ils vont reprendre et toucher du doigt la réalité. Seulement, en 3 jours, nous battons Covid-19 avec Apivirine. Et donc, n'importe qui en Afrique peut décider ça là, et puis nous allons leur accorder la faveur d'avoir Apivirine. Et d'essayer.
Merci.
Moi, je dis vraiment grand merci au gouvernement burkinabé qui a osé, ce pays de Sankara, qui a osé cette étude sur Apivirine, et nous avons les résultats qui intéressent maintenant l'Amérique et le Canada.
Merci.
Voilà, nous pouvons poser les choses au monde.
Monsieur Soum, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une inégalité au niveau, dans la recherche, que vous êtes peut-être moins bien considéré, enfin c'est une réalité, vous êtes moins bien considéré que les médecins de la médecine conventionnelle. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, que votre travail soit valorisé et plus pris en compte? Allô, monsieur Soum? Allô?
Oui, madame, je vous écoute.
Oui, comment? Allô? Allez-y, répondez à ma question, s'il vous plaît, rapidement.
Oui, veuillez répondre, s'il vous plaît.
Bon, on n'en a pas le temps, je suis désolé. Alors, monsieur professeur Traoré, comment faire en sorte qu'il y ait une égalité aujourd'hui au niveau de l'attention, au niveau de la prise en compte des recherches menées par les tradis praticiens ou les Africains et les autres pays? Allô, professeur Traoré?
Oui.
Allez-y,
oui.
S'il vous plaît.
J'ai pas bien compris votre question.
Je vais la répéter. Alors ma question.
Non, j'avais pas bien entendu.
Voilà, ma question était de savoir aujourd'hui, il y a la réalité, c'est que il y a une inégalité au niveau de l'attention qu'on porte aux produits proposés. C'est-à-dire quand un chercheur africain ou un tradit praticien africain propose des produits, il est moins entendu que si lorsqu'il s'agit par exemple de son collègue d'une autre région. Comment briser ces barrières-là aujourd'hui et ces préjugés?
Lorsque son collègue d'une autre région propose des médicaments peut-être modernes, vous voulez dire, ou des médicaments traditionnels.
Bon, peut-être parce pas traditionnels, mais...
Il n'y a pas d'égalité du
pour
point
faire
de
simple,
vue
la médecine chinoise est plus en vue et est plus prise en compte que, par exemple, la médecine africaine. Ça, c'est une réalité.
C'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que on considère encore les pays africains comme des pays qui n'ont pas suffisamment de moyens pour faire des investigations et aller jusqu'au bout pour pouvoir donner l'autorisation.
Ça, c'est la réalité. Ma question est de savoir comment corriger cela aujourd'hui en un mot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour corriger cela, je pense qu'il faut une volonté politique. Il faut que les Africains eux-mêmes essaient de travailler sur que les chercheurs africains puissent se donner la main pour essayer de développer des recherches ensemble et décider de quel produit peut être homologué sur le plan africain et l'utiliser sur le plan africain. Les Africains ne sont pas obligés de vulgariser leurs produits sur le plan international, mais ça peut être utilisé sur le plan africain. Nous avons une pharmacopée africaine qui existe et ce sont des chercheurs africains qui ont mis au point cette pharmacopée.
Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être envisager de changer l'ordre des choses? La Russie peut trouver son vaccin Sputnik V, commencer à l'administrer sans attendre l'OMS. La Chine fait pareil, mais au niveau des Africains, il y a toujours cette attente, comme s'il y avait une nécessité d'avoir l'aval et la caution de l'OMS pour être pris au sérieux.
Mais cela ne s'applique pas sur les produits issus de la pharmacopée. Vous parlez là, vous parlez des vaccins. En ce qui concerne les médicaments issus de la médecine traditionnelle, les Africains n'ont jamais attendu l'aval de l'OMS pour que l'OMS dise, par exemple, que c'est efficace ou c'est pas efficace. Ce que je disais tout à l'heure, il faudrait que les pays africains, les chercheurs africains puissent travailler ensemble, développer des médicaments traditionnels ensemble et les utiliser sur le plan africain, sur le continent africain. C'est ce qu'il faut. Et en ce moment, ils n'ont pas besoin d'attendre l'aval de qui que ce soit pour que le produit soit homologué sur le continent africain.
Merci.
Dès lors où ce sont des chercheurs africains qui sont connus et qui sont connus être des experts en la matière, ils ont mis au point des médicaments traditionnels. Et donc, ces médicaments traditionnels pourront être utilisés par la population africaine.
Merci beaucoup.
Je pense que c'est ce qu'il faut faire sans attendre l'aval de
l'OMS. Qui que ce soit. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Et docteur Agon, pour terminer. Allô, docteur Agon?
Pour moi,
oui, allez-y.
Je pense que nous, les pays africains, nous devons nous prendre au sérieux nous-mêmes d'abord. Parce que si nous ne nous comprenons pas au sérieux, les autres ne nous prendront jamais au sérieux.
Mais le professeur parlait de mutualiser les compétences et de travailler ensemble.
Il a tout dit. Par exemple, au niveau de CEDEAO maintenant, nous devons nous rassembler, nous chercheurs, et décider quelque chose pour la CEDEAO, pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça. Et nous inviter.
Et commencer à prescrire dans chaque pays les médicaments qui seraient disponibles pour soigner telle ou telle pathologie.
C'est comme ça. On prend un paradigme en science, on n'attend pas l'appui de quelqu'un. On s'impose. On s'entend, et quand on est dans les normes scientifiques, on avance. Mais les Africains développent la compétence de se détruire au lieu de se construire. C'est grave. Il faut que nous puissions nous prendre au sérieux. Et je pense que le Burkina a fait un cas d'exemple. Et les autres pays, Congo, comme Guinée-Conakry et comme Madagascar, ont fait un cas d'exemple.
Merci.
Nous devons suivre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Merci, oui. Docteur Valentin Agon, directeur général d'API Bénin et d'API Pharma à Cotonou, au Bénin. Professeur Falaï Traoré, directeur national de la pharmacie et du médicament à Conakry, en Guinée. Et enfin, Moïse Soumb, secrétaire général de Atrapacam, l'association des tradis praticiens à Yaoundé, au Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.